Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser.
Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons.
Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Une maison, mais pas une maison ordinaire. Une maison tout en bonbons.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions?
Et un peu de vitriol.
Non! Oui!
D'abord, souvent, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci.
Bonjour, nous nous appelons Héloïse Méard
et Mathilde Fachan.
Nous sommes toutes les deux chefs en cuisine végétale et cofondatrices du Café Contresort. Et dans Kitchen Witch, nous te parlons de sorcellerie de cuisine pour mettre de bonnes ondes dans tes marmites. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets très intéressants. Les champignons qui seront pour ma part et Mathilde, dis-le. Tu vas nous parler des
Oshogatsu, qui sont les traditions du Nouvel An au Japon.
Oui.
Moi, je me fiche un petit peu du Nouvel An en France, mais la seule fois où j'ai ressenti de la magie, c'était au Japon. Parce que là-bas, cette tradition a véritablement du sens. Et vous allez voir, côté tradition culinaire, je pense qu'on pourrait s'inspirer de 2-3 trucs un peu sympas qui se font là-bas, sans faire d'appropriation culturelle, bien sûr. Est-ce que toi, Héloïse, tu as des traditions de Nouvel An, ou pas particulièrement, t'es un peu comme moi, tu t'en fiches?
Alors, pendant longtemps, ma tradition du Nouvel An, c'était de rester chez moi et de regarder un bon vieux film ou une bonne vieille série, un peu nul, type, tu vois, Heidi sur la montagne, ou, tu vois, des trucs un peu ringards comme ça, et manger des bonbons jusqu'à avoir pratiquement une crise de foie. Et ça fait plusieurs années que je ne fais plus ça. Donc... voilà, mon estomac se porte mieux, mais non, je déteste les fêtes de fin d'année, donc voilà.
Voilà, donc merci le Grinch qui était avec nous pour témoigner de son cœur froid. Déjà, je vais vous expliquer brièvement le contexte global de Oshogatsu, et ensuite on parlera Boostify et repas de réveillon des premiers jours de l'année.
Et c'est peut-être justement le moment pour nous de vous souhaiter tous nos bons voeux pour cette année 2023, et on espère qu'elle ne sera pas pire que 2022.
Vraiment les meilleurs voeux. C'était horrible, j'espère que ce sera moins horrible.
Excusez-moi, aujourd'hui je représente le Grinch.
Donc en fait, Oshogatsu au Japon, c'est une des fêtes les plus importantes. Donc c'est Oshogatsu ou Ganjitsu. Et c'est vrai que donc moi, j'ai passé les fêtes de fin d'année au Japon en 2009. Et autant Noël, ça a un côté assez déprimant là-bas parce qu'il y a tout le folklore de Noël avant, dès novembre, hein, un petit peu comme chez nous. Mais ensuite, comme c'est pas une fête qui est du tout... ancré dans la tradition, enfin c'est vraiment c'est devenu quelque chose d'assez superficiel et d'assez américanisé. Donc en fait, le soir de Noël, il n'y a pas du tout l'ambiance de Noël telle qu'on peut la voir ici. Mais c'est vrai qu'avec Oshogatsu, j'ai retrouvé cette espèce d'ambiance du temps suspendu. Il y a les gens qui font leurs emplettes le jour J, on voit des familles qui se déplacent ensemble, tout le monde a la mine réjouie. Il y a aussi la fermeture de divers magasins, ce qui est rarissime au Japon, où il y a vraiment plein de boutiques qui sont ouvertes en permanence. Et c'est vrai que début janvier, on a vraiment cette impression du pays qui va se reposer du 1er au 5, et parfois même un peu avant, dès le 26, le 27, le 28. C'est vraiment rarissime au Japon qu'il y ait plusieurs jours d'affilée comme ça. Il y a la Golden Week au printemps, et il y a ce moment vraiment autour du Nouvel An. Il y a les administrations qui ferment du 29 au 3, donc ça donne ce côté vraiment d'un temps un peu à part puisque là-bas il n'y a pas de culture des longues vacances et surtout pas des vacances qui durent 2 semaines ou davantage. C'est complètement un truc d'européen paresseux.
Bon, nous il nous faut plus de vacances, donner plus de vacances aux Français, c'est on en a clair. Besoin.
Auparavant on fêtait le début d'année au printemps comme dans d'autres pays d'Asie et comme dans beaucoup de fêtes païennes celtiques, et comme aussi le zodiaque en astrologie vient suggérer que le renouveau, c'est le printemps, et que donc ça marque un début d'année. Et en fait, à partir de 1873, le Japon s'occidentalise et va se calquer sur le calendrier grégorien. Et donc, le 1er janvier devient le premier jour de l'année. Donc, il y a des traditions culinaires, je vous l'ai dit, mais pas que. Déjà, il va y avoir le grand nettoyage de fin décembre qui s'appelle Osoji ou Susuharai. Et donc, en fait, on va vraiment purifier la maison. On va remplacer ce qui est cassé. Si on est dans une maison traditionnelle, on va aérer les tatamis. On va changer le papier des shojis. Donc, c'est les espèces de panneaux coulissants, vous savez, en carré avec le papier. Donc, des fois, bah, il peut y avoir un papier qui est abîmé, etc. Donc, on va les changer. Et puis, on va aussi régler ses dettes. Et ça fait aussi partie du nettoyage. On reprend ses papiers, on paye ce qui doit être payé, etc. On va également prendre, et ça, je pense que ça va te plaire, le dernier bain de l'année. Donc, on va se récurer comme un sous-neuf. Ça s'appelle Toshiyu. Toshi, c'est l'année. Yu, c'est le bain. Donc, on va... Enfin, le bain est l'eau très chaude. Donc, on est vraiment sur cette idée du bain de l'année pour se décrasser de tout ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois. Donc, déjà, même là-dessus, en termes de rituel de magie, pas forcément lié à la magie des fourneaux, mais je trouve qu'il y a des choses dont on peut vraiment s'inspirer, prendre même, si vous n'avez pas de baignoire comme moi, la dernière douche de l'année, le faire de manière consciente, peut-être aller même jusqu'à se laver les cheveux, etc. Et je sais que deux années de suite, j'ai une amie qui m'a invitée au spa le dernier jour de l'année, et il y avait vraiment cette impression aussi que j'ai eue le 31 décembre, voilà, d'aller se décrasser, parfois se faire masser, enfin voilà, sentir bon, etc. C'est aussi important pour bien commencer l'année.
Et oui, je voudrais ajouter que si on n'a pas de baignoire, comme moi et comme beaucoup de personnes, on peut aussi accrocher dans sa salle de bain, enfin dans sa douche en fait, ça peut être une branche d'eucalyptus ou avoir un petit pochon en mettant voilà, des herbes et plein de trucs, du sel notamment pour avoir aussi...
ce côté qui embaume quoi.
Voilà.
On va aussi décorer la maison d'un kadomatsu. Si possible, on va le placer devant la maison. Donc en fait, c'est une sorte d'arbre que l'on va fabriquer ou si on n'a pas le temps, qu'on va aller acheter. Et c'est une espèce d'arbre qui est fabriqué avec du pin, du bambou, du châtaignier ou autre. Donc en fait, ce sont des boiseries que l'on va placer au pied du... Pardon, excusez-moi. Il va y avoir des boiseries que l'on place au pied du kadomatsu et qui s'appellent Toshigi, l'arbre de l'an. C'est constitué de trois bambous qui sont taillés en biseaux de hauteurs différentes et qui symbolisent le ciel, la terre et l'humanité. Ça va être la maison temporaire des kami, c'est-à-dire des divinités. Et à la fin des célébrations, on va aller brûler les décorations de Nouvel An, ce qui permet aux divinités de repartir en fumée vers le ciel. D'où l'intérêt d'utiliser de vraies plantes, parce que si on utilise quelque chose qui est un peu en mode plastique, etc., bah, du coup, ça ne se prête pas à tout ça. On va aussi décorer avec un shimenawa, c'est une corde sacrée qui représente le lien entre le monde du divin et le monde du profane et que l'on retrouve très souvent dans les traditions Shinto, qui est donc la religion vraiment propre au Japon. C'est une religion d'État qui est liée au pouvoir impérial et qui est un assemblage de croyances animistes. On va vraiment donner une valeur sacrée et divine à tout ce qui compose la nature. Et donc, pour faire ce lien entre les divinités et le monde trivial terrestre, on va avoir plusieurs symboles, notamment cette fameuse corde. Une fois qu'on a bien décoré la maison, que soi-même on s'est bien décoré aussi, on va souvent, et je sais que ça paraît incroyable, mais oui, c'est une tradition nationale à ce stade, les personnes vont regarder Kohaku Utagasen, qui est l'émission musicale diffusée sur NHK depuis 1951, voilà, de 9h du soir à presque minuit. Puis, ça va être l'occasion d'écouter les 108 coups de cloche donnés dans les temples et les sanctuaires. Mmh. Le son de cloche de la dernière nuit de l'année, appelé Joya no Kane.
Magnifique.
Ah mais c'est trop beau. Et en plus, il y a aussi les roulements de tambour au moment du premier lever de soleil de l'année.
Oh, donc la sautothérapie grandeur nature.
Ah ouais, non mais ça, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça reste un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est d'entendre tous les tambours des temples au moment où le soleil se lève et se détache de l'horizon. Au moment où il se détache de l'horizon, il y a tous les tambours qui résonnent. C'est vraiment très très beau. Mais donc là, on est vraiment sur les sons de cloche voilà, de la dernière nuit, donc c'est avant vraiment le nouvel an en tant que tel.
Hey,
Donc ensuite, il est temps de se rendre au temple Shinto pour la première visite de l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un peu cette espèce d'effervescence tard le soir. Enfin, c'est assez sympa. Et donc, on va au temple Shinto ou bouddhique sur les coups de minuit. Vers 1, 2, 3 heures du matin. On va appeler cette visite Atsumode. Donc, on s'y rend si on peut en kimono d'hiver, mais on peut aussi y aller en tenue plus casual si on n'a pas eu le temps de se préparer. Mais du coup, c'est super sympa. Il y a toujours plein de gens qui jouent le jeu, qui sont en kimono avec de la fourrure aussi par-dessus. Bon, fausse fourrure évidemment, hein, on fait attention à la cruauté animale. Et ça va être l'occasion de se purifier à l'encens, de faire une prière pour donc les Toshigami, les divinités Shinto. On peut aussi acquérir un talisman qui s'appelle Ofuda, une amulette protectrice. On peut faire une prédiction avec les Omikuji. Donc en fait, c'est un appareil de... C'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs bâtons avec des numéros. Et donc, il faut secouer la boîte et sortir... Enfin, il y a un tout petit trou, donc il y a un bâton qui va sortir. Et ensuite, vous allez regarder si c'est un bon sort ou si c'est un mauvais sort. Et si c'est un mauvais sort, eh ben, vous pouvez prendre le papier et l'accrocher devant les temples Shinto. Il y a... des cordes qui sont prévues à cet effet. Donc si c'est un mauvais sort, vous l'accrochez pour que le mauvais sort ne vous arrive pas, comme ça vous le conjurez tout de suite. On peut aussi boire le premier saké de l'année, Tosso, ou de l'amazake. Donc l'amazake, c'est du saké chaud et sucré, très blanc, très laiteux, c'est délicieux. Et c'est voilà, à prendre auprès des stands qui entourent les temples, puisque il y a toujours cette idée aussi dans le Shinto que les festivals par exemple pour honorer les divinités sont aussi des lieux de divertissement en fait, donc vous avez de la nourriture, c'est pas séparé du tout. Parlons justement de nourriture. Donc, vous avez l'omisoka qui est le réveillon du 31. Traditionnellement, on va manger des soba, des nouilles de sarrasin, dans un bouillon chaud. C'est le toshikoshi soba ou kake qui en fait veut dire dette. Et donc en fait c'est pour symboliser les dettes de l'année qui ont été payées, et le soba représente la longévité de la vie. En plus, le soba, c'est un plat qui est très simple, donc ça permet de se reposer parce qu'on a, on va en parler, mais beaucoup cuisiné pour les prochains jours. C'est vraiment un mauvais augure de laisser une nouille soba dans le bol, donc faut tout manger. Comme ça, vous attirez à vous la longévité, telle la longue patte de sarrasin.
On vous voit, ceux qui laissaient des tout petits bouts dans vos assiettes, la dernière bouchée, on vous voit.
Et là, il faut finir de manger, sinon ça porte malchance. On va aussi boire le bouillon zoni, qui est un bouillon de légumes, de soja, de miso blanc et de dashi. Donc le dashi, c'est un bouillon de bonite séchée. Parfois, on va aussi retrouver dans ce bouillon du yuzu ou du mitsuba, qui est une forme de persil. Parfois, il y a de la viande ou du poisson, mais aussi du mochi, donc de la pâte de riz, enfin des petits gâteaux de pâte de riz gluante, on va dire. Et ça va se déguster avec des baguettes de saule non laquées. Et alors attention, parce que le mochi, c'est un des... Donc le gâteau de riz un petit peu gluant, c'est une des stars de la fin d'année au Japon. Et chaque année, il y a des vieilles personnes qui s'étouffent avec le mochi. Voilà, donc si vous avez peur que Pépé ou Mamie s'étouffent avec le mochi qui sera difficile à déglutir, n'en mettez pas dans le zoni. Voilà, ce serait dommage de commencer l'année ainsi. Et le zoni, c'est vraiment, d'un point de vue régional, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que selon les régions, bah, chacun fait un peu un zoni différent. Donc des fois c'est à base de viande, de poisson, il va y avoir des herbes, voilà, si la spécialité locale c'est du yuzu, ben on met du yuzu, etc. Ensuite commence vraiment la nourriture très très symbolique. On va manger des gâteaux de riz qui s'appellent kagamimochi, ce qui signifie littéralement gâteau miroir, parce que sa forme évoque un miroir religieux qui est beaucoup utilisé dans le shintoïsme. En fait c'est un mochi qui est empilé sur un autre mochi. Et le tout est sur un dai-dai, donc le dai-dai c'est une petite orange amère. Et en fait c'est censé prévenir des incidents domestiques parce que bah, la base du mochi c'est le riz, soit la base du repas au Japon, et donc c'est un symbole de force. En plus le mochi traditionnellement il est battu par les sumo. Alors évidemment vous allez pouvoir trouver plein de mochi qui sont pas battus par les sumo, mais celui de la fin d'année il peut y avoir, ça peut être un mochi qui a été battu par les sumo. Donc il y a vraiment ce symbole de force, et le fait que ce soit composé de deux boules comme la calebasse dont on avait parlé dans l'épisode des courges, ça va représenter l'union universelle, les polarités réunies, l'univers, l'infini, le soleil et la lune, etc. Quant à l'orange amère, dai dai, le mot signifie aussi génération. Si vous l'écrivez différemment, en fait. Dai Dai, ça peut être le nom de l'orange ou génération. Donc, en fait, ça vient symboliser la pérennité de la famille. Donc, malheureusement, tout se perd. Et souvent, maintenant, c'est directement moulé dans un moule directement en forme de deux boules, plutôt que de les superposer, parce que voilà, hein, le temps c'est de l'argent. Ouais. Donc. Mais si vous le faites traditionnellement, il y a vraiment cette idée de venir superposer et de créer votre petit gâteau holistique. Mais en fait, la tradition au Japon, c'est qu'on est parti pour quelques jours et en fait, on ne va plus faire à manger. Donc voilà, vous avez mangé votre bouillon de zoni, vous avez mangé vos sarrasins, vous avez mangé les kagamimochi que vous avez éventuellement acheté dans une boutique, mais que peut-être vous avez fait. Là, ça suffit, on se repose. C'est quand même un pays où c'est les femmes au foyer qui font vraiment tourner la boutique, donc on va les libérer de cette obligation. Donc l'idée, c'est de préparer des plats à l'avance et de les conserver dans des boîtes à bento spéciales qui s'appellent Jobako et qui sont des boîtes carrées noires à l'extérieur et vermillon à l'intérieur. Mmh. On prépare tout, on stocke ça dans les boîtes à bento et ensuite on mange les restes, on mange ce qu'il y a dans les boîtes à bento pendant plusieurs jours. Donc c'est ce qu'on appelle la cuisine osechi, osechi ryori.
J'ai une question du coup, est-ce que par exemple, si, c'est une interdiction de préparer à manger pendant ce temps-là, ou c'est plus de l'ordre de, voilà, du repos, de l'agrément. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelque chose de... une superstition associée au fait de cuisiner pendant cette période-là.
Alors, excellente question. Fut un temps, il y avait plus ce côté de superstition, mais en fait, la superstition, elle s'explique. Le fait de faire à manger au Japon, c'est toujours prendre un risque. Pourquoi ? Pendant très longtemps, on faisait comme beaucoup. Enfin, il n'y avait pas l'électricité, etc. Et on faisait en plus directement au feu de bois ou dans des poêles. Sauf que c'est un pays qui est très marqué par les tremblements de terre. Donc d'ailleurs, les tremblements de terre qui ont été les plus meurtriers, ce sont ceux qui ont lieu à l'heure des repas, notamment les repas du midi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tout s'effondre, il y avait partout des casseroles, des poêles qui étaient activés, etc. Et donc, ça cause beaucoup plus d'incendies. Les tremblements de terre, ils sont dangereux, mais ils sont aussi dangereux à cause des dégâts qu'ils créent, en fait. C'est le tremblement de terre en tant que tel, évidemment, si on est sur une faille, c'est pas bien. Mais au-delà de ça, le problème, c'est les effondrements que ça cause et surtout les incendies que ça cause. Les incendies, c'est vraiment un des risques principaux. Et donc, en fait, il y a un petit peu cette idée que de ne pas cuisiner aussi pendant plusieurs jours, on va éviter les incidents domestiques aussi, tout simplement. « Aïe, je me suis brûlée. Aïe, je me suis coupée. » Et puis, il y a aussi cette idée que ce sera peut-être un peu moins un dégât si jamais il y a un tremblement de terre qui vient frapper à ce moment-là. En tout cas, c'était ce que j'avais lu.
Très bien. Merci pour cette précision.
Mais maintenant, c'est beaucoup moins sur la superstition et c'est beaucoup plus sur le « est-ce que j'ai envie ?» de m'embêter comme tous les autres jours de l'année à faire à manger, non. Je l'ai fait dans les jours qui viennent et ensuite rouler jeunesse et je vais être consacrer mon temps à le temps en famille, aller au temple, se balader, rendre hommage aux ancêtres, etc.
Et c'est déjà pas mal.
Donc cette fameuse cuisine qui est gardée à l'intérieur des boîtes à bento, donc comme je vous le disais, ça s'appelle Osechi Ryori. Et c'est un peu mon concept préféré au monde parce que chaque élément va représenter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pareil avec une cuisine aussi ancienne au Japon qui s'appelle cuisine Kaiseki et où vraiment chaque élément de la cuisine va représenter quelque chose en rapport avec la saison et en rapport avec la nature et où donc ça va changer constamment. Je pense que c'est quelque chose qui va te parler parce que c'est ce qu'on essaye nous de faire par exemple pendant nos brunchs Alice au Pays des Merveilles où chaque élément est censé représenter visuellement un élément d'Alice au Pays des Merveilles. Bah là, c'est un peu la même idée.
J'adore. Ah non, mais moi, je voudrais vivre que comme ça en fait. Si j'avais le temps, j'aimerais que manger des choses qui symbolisent quelque chose. J'adore cette idée de rituel par rapport à la nourriture parce que j'adore la nourriture.
Ah bah là, j'espère que ça va t'enjailler. Donc la tradition, elle date de l'ère Heian, de 794 à 1185, donc c'est grossièrement considéré depuis l'Occident comme le Moyen-Âge japonais, mais c'est aussi vraiment l'âge d'or en fait d'une forme de culture japonaise. Et puisqu'en fait c'est une époque où la culture japonaise va s'émanciper de l'influence chinoise, mais aussi développer ses propres particularités. Et à l'époque, la cour impériale se retrouve à Kyoto et non pas à Tokyo comme maintenant. Et le Nouvel An, c'était déjà un des 5 festivals saisonniers qu'à l'époque on appelait Seku. Et à l'époque, c'était d'ailleurs, donc ça va répondre aussi à ta question et on va revoir les racines historiques, mais c'était vraiment interdit de s'approcher de l'âtre et de cuisiner à ce moment-là. Donc à l'origine, l'osechi ryori, donc cette fameuse cuisine du Nouvel An, elle va être surtout composée de nimono, c'est-à-dire de légumes qui sont bouillis dans le sucre, les petits légumes marinés que d'ailleurs des fois vous pouvez retrouver si vous allez manger même dans un restaurant japonais, vous allez avoir du radis très jaune, un peu de radis rose, etc. sur le côté de votre assiette. Et donc voilà, c'est des légumes bouillis dans le sucre, la sauce soja et le mirin, c'est le vinaigre de riz sucré.
Yum.
Et voilà, et en fait au fur et à mesure on va avoir des traditions culinaires chinoises, chou tafu osechi et occidental seiyo osechi qui vont se rajouter et qui va faire toute cette nourriture, vous allez voir, truculente qui a maintenant lieu. Donc en fait on va vraiment empiler les boîtes dont je vous ai parlé, là, les fameuses boîtes vermillon à l'intérieur, noir à l'extérieur, les jubako. Va y avoir 3 à 5 boîtes, donc elles sont toutes numérotées, la première, la deuxième, la troisième, la cinquième. La première boîte va avoir des aliments pour accompagner le saké. Ensuite, vous avez les plats grillés et marinés. Ensuite, vous avez les plats de la montagne et de la mer, parce que c'est vrai que le Japon, c'est le pays terre et mer par excellence. Ensuite, vous avez les plats mijotés. Et enfin, la dernière boîte, c'est une boîte vide pour que le bonheur puisse venir s'y installer.
Oh, moi, je veux que cette boîte et que du bonheur dedans.
Alors, qu'est-ce qu'on mange dans la osechi ryori?
Salut à tous. Aujourd'hui, je suis chez la grand-mère de ma femme et on va manger osechi. Et donc, sa tante qui a tout préparé va nous présenter un peu ses plats en japonais. Je mettrai les sous-titres après. Allez, c'est parti.
Sous-titrez-vous. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un
gomame. Iwashi no kodomo. Gobo. Yasai. C'est un namasu.
Vous avez le datemaki. C'est une omelette sucrée mélangée avec de la pâte de poisson et de crevettes pour souhaiter des jours fastes et heureux. Et en fait, comme c'est roulé, ça va ressembler à un parchemin. Et en fait, ce parchemin, il rappelle le parchemin des... comment on appelle ça? Les scholars, enfin des savants d'antan, ouais. Quoi, voilà. Donc en fait, ça va être aussi très important pour l'intelligence et la réussite aux examens. Donc particulièrement important si vous avez, par exemple, des enfants qui sont en train de passer les concours, etc. Vous avez également les œufs de hareng, qu'on appelle donc kadzu no ko. Kadzu, ça veut dire le nombre, et ko, c'est enfant. Et donc, ça symbolise le désir d'enfant, comme le fameux dai-dai, la fameuse orange amère qui représente aussi les générations et donc la progéniture. Donc, particulièrement important pour des familles où on souhaiterait avoir des enfants. Vous avez également l'algue kombu. Pourquoi? Parce qu'on l'associe au mot yorokobu qui veut dire se réjouir. Donc en fait, il y a beaucoup de jeux de mots comme ça qu'on va retrouver avec la cuisine osechi. Donc je trouve ça génial de vraiment réfléchir à d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça évoque, comment ça s'écrit. Vous allez avoir du soja noir, koromame, parce que mame, ça signifie aussi santé, pour la santé. Et donc, c'est on considère qu'elle est nécessaire pour travailler. Et en plus, travailler dur, en japonais, ça peut se dire mame ni hataraku. Donc, on va aussi retrouver le mot mame. Donc, on est vraiment sur cette idée du soja, qui c'est juste un jeu de mots, en fait. Vous allez avoir la roulade d'œuf, mais on va séparer le blanc et le jaune avant la cuisson parce que, donc ça c'est nishiki tamago, et on sépare le jaune et le blanc parce que le jaune représente l'or et le blanc représente l'argent, et donc ça va vous donner cette roulade d'œuf qui est censée vous attirer l'abondance.
J'en ai besoin, mais j'aime pas les œufs.
Oui, alors oui, en effet, rien de tout ceci n'est vegan, c'est très compliqué de trouver des traditions culturelles vegan au Japon, c'est compliqué. Alors pourtant c'est le pays du tofu, le pays du natto, le pays du soja, mais en fait c'est vraiment un pays qui est tellement entouré d'eau que si vous parlez de véganisme au Japon, bien sûr il y a des communautés véganes et de plus en plus, mais vous allez vraiment souvent passer pour un occidental qui fait la leçon aux gens, tellement on va retrouver beaucoup de, notamment de produits à base de poisson en fait dans les sauces, les bouillons, etc. Vous avez également un poisson justement qui s'appelle le tai, parce que ça va rappeler dans la façon dont ça s'écrit le mot medetai qui signifie opportunité. Vous avez des sardines cuites dans la sauce soja qui s'appelle tadzukuri, et en fait c'est parce que la façon dont ça s'écrit, le nom de ces sardines, ça veut dire fertilisant de riz complet. Pourquoi ? Parce que ces poissons étaient réputés pour fertiliser les rizières. Et donc en fait on les sert dans la osechi ryori parce qu'on considère que c'est l'appel d'une récolte abondante de les quand on les retrouve dans les boîtes. Vous avez également les kamoboko, donc c'est un gâteau de poisson grillé avec des tranches blanches et rouges disposées en rang et en alternance pour former un motif qui va rappeler le drapeau national du soleil levant par leur couleur. Et le rouge porte bonheur et le blanc symbolise la pureté, donc on va aussi retrouver ce code couleur. Vous avez une préparation de légumes qui va mélanger le daikon, donc cette espèce de gros radis blanc, des carottes coupées en fines lamelles et conservées dans du vinaigre au yuzu. Ça s'appelle kohaku namasu, et là aussi ça va être le côté légumes rouges et blancs, donc toujours ce code couleur. Vous allez avoir des châtaignes confites à la patate douce qui ont une couleur dorée pour appeler la prospérité matérielle.
Miam.
Miam, miam, miam. Un autre poisson jaune qui change de nom en atteignant la taille adulte, il s'appelle le bouli. Et comme il change de statut ou de nom, c'est un peu comme vous voyez les têtards et la grenouille. Mmh. Donc en fait, comme c'est un poisson qui va changer de nom selon qu'on le voit jeune ou âgé, en fait, on considère au Japon que c'est comme s'il recevait une promotion. Et du coup, on le met parce qu'on considère que c'est de bonne augure pour le travail. Non, mais moi, je trouve ça génial. Non, c'est génial. Tradition, c'est incroyable. Vous allez avoir les racines de lotus trouées, les lenkon, pour voir un futur que rien n'obstrue, sans fumée, ni confusion, ni obstacle qu'on n'aurait pas vu venir. Avant-dernier élément, le tataki gobo, ce sont des racines de bardane cuisinées avec du vinaigre et du sésame. Et en fait, il faut les frapper pour les ramollir et les ouvrir. Et cette notion d'ouverture rappelle le fait de créer de l'opportunité et de créer sa propre chance. Et enfin, vous avez les crevettes ebi qui, grâce à leur moustache, représentent les vieilles personnes. Oh. Et donc, voilà, il faut honorer les vieilles personnes. Il faut souhaiter aussi arriver à un âge avancé. Et donc, on les met pour se souhaiter la longévité. Donc, j'ai brainstormé avec moi-même. Et je me suis dit que j'allais vous proposer des plats, des aliments pour faire un osechi façon française.
Oui.
Donc attention, pas d'appropriation culturelle, commencez pas à les capitaliser sur vos osechi, French osechi, et à lancer des osechi bars comme les restaurants à Pokéball, là ça suffit, mais je me suis dit qu'on avait aussi un petit game qu'on pouvait faire. Donc déjà, je vous propose de mettre dans vos boîtes à bento du nouvel an des mendiants à base de fruits secs et de chocolat, mais vous pouvez les colorer en doré avec de la poudre alimentaire pour vous attirer la prospérité. Vous pouvez évidemment utiliser la carambole, qui est donc un fruit qui, lorsqu'il est coupé, ressemble à une étoile pour vous sentir guidé dans la vie et mettre des étoiles dans vos vies. Vous pouvez mélanger de l'orange et du gingembre pour vous souhaiter d'avoir de l'énergie toute l'année. Donc dommage, c'est pas la saison des pêches en décembre, mais sinon vous pourriez en mettre pour avoir la pêche. Vous pouvez aussi mettre de la banane pour avoir la banane toute l'année. Des carottes pour la bonne mine, mais pas trop cuites, parce qu'on veut pas que les carottes soient cuites pour la nouvelle année.
Oh non.
Dans la même idée, vous pouvez mettre des frites pour avoir la frite. Vous pouvez mettre des fromages, comme ça, ça vous évitera de faire tout un fromage de vos problèmes cette année. J'ai aussi pensé qu'on pouvait mettre des artichauts marinés et rôtis à manger en une bouchée pour éviter d'être victime des cœurs d'artichauts volages et inconstants. Je vous propose aussi de faire un mini roll, genre un mini cinnamon roll, brioché, comme ça vous pouvez le rouler dans la farine avant de l'être vous-même.
Oh.
Ça va déjouer le sort. Je vous propose aussi de mettre l'abricot, par exemple de l'abricot séché, parce que en argot ça veut dire le sexe féminin. Donc je vous souhaite moult abricots à la fois dans vos préparations de légumes d'hiver, mais aussi moult abricots dans la vie en général.
Ouais, c'est utile toujours.
Vous pouvez aussi faire quelque chose à base de beurre lacté ou végétal pour faire votre beurre de tout ce qui vous arrivera cette année. Vous pouvez peut-être les associer à des épinards, car on se souhaite plein de beurre dans les épinards. Vous pouvez aussi préparer des biscuits cookies avec des zestes de citron et une demi-noisette pour ressembler à une pièce d'un euro et ainsi attirer la fortune. Et je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ce souhait, mais peut-être préparer une boisson à côté pour tremper votre biscuit autant que vous espérez le faire en 2023. Vous pouvez également mettre des bonbons et les manger lentement pour éviter qu'on vous les casse, les bonbons. Un gâteau avec une cerise dessus pour espérer le meilleur et plus encore, et que l'existence soit du gâteau. Des graines parce qu'on en prend toujours de la graine. Du chou pour éviter d'y être. De la courge et de la poire pour éviter d'en devenir une. Du miel végétal ou véritable pour faire votre miel de toute chose. Et des nouilles pour s'emborder le derrière. Enfin, je vous dirais surtout pas de navet, car il n'y a rien de pire que payer 15 balles sa place de ciné pour voir un navet. Ni de prune, car on déteste en recevoir. Je vous laisse juste de la pertinence de cuisiner des quenelles ou de la semoule ou de la truffe pour ce repas symbolique, c'est vous qui voyez. Idem pour la sauce, puisqu'à la fois on déteste être dans la sauce et en même temps des fois on peut adorer mettre les gens dedans. Donc je vous laisse faire votre choix. Quoi qu'il en soit, faites attention au pain que vous choisissez pour éviter de vous mettre dans le pétrin dès le nouvel an et choisissez attentivement votre fourchette pour avoir un bon coup de fourchette. Voilà, c'était mon moment Raymond DeVos et j'espère que ça vous a plu d'avoir 83 ans grâce à mon humour de daronne.
Bravo, moi j'ai adoré. Et j'espère que l'année prochaine j'aurai une boîte avec tout ça dedans.
Complètement. Et c'était aussi quelque chose avec quoi je voulais finir. Je sais qu'on sort l'épisode un peu en décalé par rapport au nouvel an en tant que tel, mais pour moi tout janvier, en fait, ça peut être l'occasion de vraiment, voilà quoi, réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler, etc.
Oh, tu vas plaire à ma tante, toi.
Donc, en fait, si vous avez envie de préparer, de faire un repas de nouvelle année avec tous ces bons conseils, eh bien, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à la fin du mois. Ta tante, je l'invite pourquoi exactement ?
Bah, parce qu'elle adore, elle dit toujours, oui, on a tout le mois de janvier pour se fêter... la bonne année et pour voilà célébrer et tout donc,
alors par contre moi ça m'oppresse vachement de se souhaiter la nouvelle année jusqu'à la fin, mais on peut juste bien manger pour faire un repas pour s'attirer la chance et la moulaga.
C'est vrai, et si vous faites un genre de banquet avec tous les éléments cités précédemment par Mathilde, on veut des photos.
Akemashite omedetou gozaimasu. Oui, c'est très long à dire en japonais.
Ok, bon bah moi du coup je vais vous parler d'un truc un peu moins glamour. Ça peut être mignon parfois, mais pas tant. Enfin, vous me direz, ce sont les champignons.
Oui, oui.
C'est une famille un peu particulière qui est un peu même ovni en termes de classification. Donc le champipi, le champignon. Voilà. Ah, il n'y a pas que toi qui fais des blagues de daronne, ok. Donc, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je dirais que le champignon, c'est assez clivant. Il se peut qu'on l'adore ou qu'on le déteste, ou même que notre cœur balance entre les deux. Déjà, parce qu'il y a énormément de variétés, donc il y a peut-être de la chance que vous en aimiez au moins un. Donc, autant de goûts possibles et imaginables. Mais aussi, surtout, je dirais parce qu'il s'agit d'une espèce à part entière, ni végétale, ni animal, et c'est là que mon cerveau explose quand j'y pense un peu trop longtemps.
Comme le blob.
Ah voilà, ah bah voilà, elle a parlé du blob. Le blob, c'est... J'occulte. Donc Mathilde, toi dis-nous, quel est ton rapport aux champignons ?
C'est vrai qu'il y a des champignons qui me dégoûtent un peu et il y a des champignons que j'aime bien à manger. Je pense que ça dépend beaucoup aussi de la façon dont c'est cuisiné, mais pas que. Et je t'avais parlé d'un épisode de la série Hannibal qui m'avait traumatisée et qui je crois était l'épisode 2 de la saison 1. Du coup, j'ai jamais regardé cette série au-delà. Et il y avait justement un tueur en série qui faisait pousser des champignons sur ses victimes. Et ça, par exemple, j'étais là, c'est trop pour moi, je m'en vais. Donc oui, j'ai un rapport très ambigu aux champignons. Mais je trouve ça formidable, d'un point de vue scientifique, incroyable.
C'est en effet formidable, puisque, comme je vous le disais donc, le champignon, c'est donc ni végétal, ni animal, donc ni l'un ni l'autre, bien au contraire. C'est un saprobionte. Déjà, le mot, enfin, excusez-moi, ça donne pas trop confiance, mais bon. Ça vient du grec sapros, putride, miam miam, et bio, vivre, donc on se rattrape. Donc le saprobionte, c'est un organisme qui se nourrit de matière organique, morte ou en décomposition. Voilà, ouais. Voilà. Ainsi, c'est comme ça que de nombreux champignons se développent selon ce mode de nutrition qui est donc sa profite. Et ils arrivent à croître sur des arbres ou au travers des feuilles mortes. Et ils participent donc à la formation de l'humus, pas le humus, le humus. Ce n'est pas la même chose. C'est donc la couche supérieure du sol. Qui est entretenue et modifiée par la décomposition de tout type de matière organique, donc principalement l'action combinée des animaux, et des bactéries et des champignons. Donc voilà, l'humus est très important. Les champignons sont donc très importants, et à ce propos, je vous encourage vraiment et vivement à regarder le documentaire Fantastic Fungi sur Netflix qui explique très bien en quoi les champignons sont ultra importants pour notre bonne vieille planète Terre, et vous y apprendrez sans doute plein de choses mind-blowing, comme par exemple le fait que certains arbres, grands arbres, ne peuvent pas vivre sans les champignons, parce qu'ils partagent avec eux une relation de symbiose dans laquelle chacun est indispensable à l'autre en associant leurs racines avec... En associant leurs racines avec le mycélium, ils vont permettre un échange nutritionnel. Le champignon apporte à l'arbre des minéraux grâce à son réseau de filaments très étendu, et l'arbre lui apporte du sucre en contrepartie. Et donc on sait aussi que sous terre, en fait, et c'est là que ça me donne un peu de tachycardie, ils sont tous interconnectés. En fait, on vit grâce à un monde de champignons. Ça. Donc vous comprenez que les ingérer, c'est rigolo, mais des fois ça fait un peu flipper quand on y pense un peu trop longtemps. En tout cas, c'est mon cas.
Est-ce que tu te sens connecté au reste du réseau de champignons ?
J'ai pas envie de me connecter tout de suite au reste du réseau de champignons, parce que je l'associe quand même. Enfin, déjà, champignons, on l'utilise aussi pour décrire des trucs dégueux. Donc on n'aurait pas pu trouver un autre nom, s'il vous plaît, parce que moi je suis contre ça. Je suis pas fan.
Et c'est vrai que même le mot. Enfin, tu sais, même, tu peux dire fungi, et du coup, t'es là, mais c'est fongique, quoi. C'est anti-fongique, et on l'utilise pour des trucs dégueux.
Non, mais genre sous les ongles et tout.
Pour les mycoses, quoi.
Non, mais c'est ça, donc je suis pas trop fan. Donc, mais en même temps, je suis fan, parce que c'est passionnant. Donc, vu comme ça, même si certains champignons ont bon goût, c'est ça, quand on y pense, comme je disais, on peut les trouver quand même assez dégueux.
Déroutants.
ou déroutants, mais ça commence par un dé. Et comme dirait notre cher pasteur... pas un pasteur protestant, mais Louis, le mec de Marie, en fait, Curie, du coup. Donc, si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière organique morte et de cadavres de tout genre, animaux et végétaux. Ce sont eux principalement qui donnent à l'oxygène ses propriétés comburantes. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Donc on pourrait dire après la pluie, le beau temps, et les champignons aussi, parce que c'est un peu l'histoire de la vie. Donc, maintenant, place aux chiffres. 450 millions, c'est le nombre d'années... je recommence. Alors maintenant, place au chiffre 450 millions. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Le nombre de champignons qui existent.
Alors, pour l'instant, non, mais 450 millions d'années, c'est là où on va retrouver en fait la plus ancienne trace de présence de champignons. Donc le gars est là depuis à peu près 450 millions d'années, on a compris, on a besoin d'eux. Les champignons sont nos amis, sauf quand ils s'invitent là où on ne veut pas les trouver.
Pas pour toi, mais je suis une buse, tu sais, sur la durée de temps et la datation préhistorique. C'est-à-dire que là, comme ça, tu me demandes exactement l'apparition des prémices de l'être humain, le temps des dinosaures, etc. Je suis incapable de te donner une échelle de temps. C'est une catastrophe. À chaque fois, j'apprends et après, j'oublie.
Eh bien, tu peux te dire que c'était il y a très, très, très longtemps.
C'était avant les dinosaures, du coup.
C'était avant les dinosaures. C'était avant les dinosaures.
Le champignon est l'ancêtre du dinosaure.
D'accord. Le champignon est l'ancêtre de... Nous sommes des champignons. Je suis un champignon. Alors, après 5 millions, alors ça, c'est le nombre d'espèces de champignons connues dans le monde à ce jour. 30 000, c'est le nombre d'espèces différentes répertoriées en France. 30 000.
C'est beaucoup.
30 000. Vous avez peut-être des champignons sur vous, vous le savez même pas.
Donc, parce qu'on les a pas encore nommés.
à 15%. Alors là, par contre, j'ai envie de tout casser, de tout arrêter. Oui, j'ai une, un amour pour l'exagération. Donc 5 à 15%, c'est le chiffre approximatif des champignons qui ont été découverts. Donc là, là, les histoires de 5 millions de champignons dont je vous parlais, ça représente que 5 à 15% des champignons qui existent.
Ah, au final, on arrive sur un chiffre aussi grand que le... on se rapproche du fameux chiffre de départ qui était en fait le chiffre de leur âge.
Non mais complètement, it's insupportable, insupportable en français. Et 146, donc finalement c'est peu par rapport aux 30 000 champignons français, c'est le nombre de champignons officiellement comestibles. Oui, parce que bien sûr, il y a les comestibles et les non-comestibles, et les petits champignons qui vous font faire des trucs un petit peu rigolos, ou pas, attention, l'usage de drogue, blabla, vous savez, le truc qu'on doit dire pour se méfier, méfiez-vous. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse, les champs étaient humides et suffisamment acides, c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. 146, voilà, c'est le nombre de champignons officiellement comestibles figurant sur la liste de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Ça fait beaucoup de « et », donc c'est l'ANSES. ANSES, A-N-S-E-S, acronyme, qui concerne donc les champignons de culture, mais aussi les champignons sauvages. Fun fact, les truffes ne font pas partie de ce répertoire et ont un répertoire, en fait, bien à elles, quoi. Donc, parmi les plus connus, bien sûr, les plus connus comestibles, on va retrouver les cèpes, les bolets, les trompettes de la mort, les girolles, les pleurotes, et bien sûr, nos bons vieux champignons de Paris. C'est quoi ton champipi préféré ?
C'est une bonne question. Ça va beaucoup dépendre de la façon dont il est préparé. Par exemple, le champignon de Paris, c'est vrai que si tu me le sers tout en entier, je suis un peu là, c'est vite caoutchouteux, quoi. Enfin, je trouve, même rôti, même... Alors que si tu me le sers en du sel, eh ben, je vais beaucoup plus l'apprécier.
Explicite à nos chères auditeuristes ce qu'est la du sel.
C'est des champignons très, très, très émincés, très, très fins, je crois.
C'est ça, bravo, c'est tout à fait ça. Donc, bah, tu m'as pas répondu, c'est pas ton préféré. C'est ton préféré, du coup, le champignon de Paris ?
Non, mais ça va dépendre de la préparation qui va avec, en fait.
Okay.
C'est-à-dire que selon l'assaisonnement, etc., je peux adorer le portobello et détester le portobello.
J'ai très bien compris.
Je peux adorer les girolles et détester les girolles. Pareil pour le shiitake, pareil pour tout, en fait.
Très bien. Très bien, très bien.
Donc, désolée pour cette non-réponse.
Non, mais je l'accepte. Et donc, en tout cas, sous nos latitudes, on a pu voir émerger aussi deux types de champignons comestibles en masse. À partir du 20e siècle, dû au mouvement migratoire, principalement de différentes populations, et dû aussi tout simplement à la mondialisation et au brassage culturel. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître les champignons enoki, que j'adore, mais qui me dégoûtent en même temps, parce que je les trouve mignons, et qui sont souvent de couleur blanc crème. Oui. Ça fait des longs filaments avec des tout petits jolis chapeaux mignons, et en fait je les adore, mais ils me font vraiment flipper, parce qu'ils me font penser... Alors, vous allez découvrir que j'ai des associations d'idées qui peuvent être particulières parfois. Et moi, je trouve qu'ils ressemblent aux momrats dans Alice au Pays des Merveilles. C'est des espèces... Alors, je sais, ils ne sont pas blancs crème, mais ils ont des espèces de pattes avec des filaments et un genre de chapeau au-dessus. Et ils me font vraiment penser à ça. Donc,
Moi, je les adore, je mangeais que ça quand je vivais au Japon. Et en effet, il y avait ce truc... J'adore, mais souvent, quand on les achète, ils sont encore tous ensemble, ouais, sur leur mousse et il faut le couper.
Ouais.
Et en effet, à ce côté de... une fois que c'est fait, je trouve ça incroyable. Et je me faisais tout le temps ça, revenu à la poêle. Avec du riz ou des pâtes, parce que j'étais étudiante et j'avais pas d'argent, mais je faisais que ça.
Bah, je trouve ça sympa, mais en même temps, psychologiquement, j'ai du mal à dépasser ce cap.
Je comprends.
Donc voilà, donc les fameux enoki, vous pourrez aller googler pour voir si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment très très sympa. On a aussi... Qu'est-ce qu'on a aussi ? Bah oui, on connaît bien les champignons nuages d'oreilles ou oreilles des bois poilus. J'adore ce nom, oreilles des bois poilus, mais on les connaît plus souvent sous le nom de champignons noirs chinois. Et juste avant, c'était donc leur traduction du mandarin. oreilles des bois poilus. Enfin, c'est quand même trop classe. Je te sers une assiette d'oreilles des bois poilus.
Bon, peut-être alors, que ça c'est donne classe, mais du coup, moi, ça me... Voilà, c'est ça, je suis en mode non, merci.
Ok.
Il faudrait que je le voie pour faire. Oui, bon, d'accord. Champignons, quoi.
Oui, bah après, moi, personnellement, ça me fait plus penser à des oreilles de cochon d'Inde, parce que c'est un aspect et une texture assez cartilagineuse. Mais c'est ce qu'on va retrouver, en tout cas, souvent dans les soupes et aussi dans les nems. Et puis, bien sûr, on a maintenant un peu partout, surtout dans les échoppes bio, les shiitake, stars des recettes véganes, parce qu'ils ont ce umami particulier, donc umami, le goût du bon goût, quoi, et une texture souvent semblable à la viande, en fait, pour les personnes qui sont intéressées par la récréation de ce type de texture carnée. D'un point de vue nutritionnel, les champignons sont hyper, ultra, méga, giga intéressants, car ultra riches, ultra méga giga, riche en fibres, et ils contiennent très très peu de calories. Et puis on a aussi découvert qu'il existait, grâce à toutes les études scientifiques, des champignons adaptogènes, donc c'est-à-dire qui ont des qualités qui vont favoriser notre homéostasie, soit l'équilibre naturel de notre corps. D'ailleurs, au Café Contresort, on sert un café qui s'appelle le Café Contresort, qui est un mocha, donc ça contient du café et du cacao cru, de la crème de noix de coco, après vous choisissez le lait végétal de votre choix, et on a une synergie de 7 champignons adaptogènes différents. Donc parmi ces champignons, on va retrouver le reishi, qui améliore considérablement l'immunité, l'énergie physique et la concentration, tout en réduisant le stress et l'anxiété. On va avoir aussi le cordyceps. Alors, faut que je vous donne ces actions, il faut que je vous raconte un truc atroce à propos de ce champignon. J'espère que vous avez le cœur accroché. qui est presque un produit dopant, puisqu'il améliore considérablement les performances physiques et aussi sexuelles.
Mmh.
Et donc voilà, ça joue sur l'endurance et ça améliore aussi la santé des bronches et des voies respiratoires. Donc c'est un champignon tout à fait adapté pour les fumeurs, si vous voulez prendre un petit peu soin de vos poumons, et les personnes souffrant d'asthme. Donc à propos du cordyceps, le truc qui est assez hallucinant, c'est que c'est un champignon qui se développe principalement à l'intérieur du corps des fourmis. Et donc le truc qui est vraiment assez flippant, c'est que le champignon pousse au travers de leur corps sans attaquer le cerveau. En fait, le champignon prend le contrôle du corps de la fourmi, et ça va servir à diffuser les spores à grande échelle. Donc en fait, grâce à ça, ils vont contrôler les actions de préhension de la fourmi, en l'obligeant à sortir de sa fourmilière, parce qu'en général il fait son petit malin avec ses spores, il les attaque en haut de la fourmilière. Ensuite, elle est obligée de monter dans les arbres, et une fois qu'elle est bien accrochée, et ben là, paf, le champignon va éclater de partout, et exploser, mais va vraiment sortir et diffuser tous ses spores pour proliférer. Et ouais, c'est vraiment atroce. Je vous invite à aller voir des photos et des vidéos, c'est horrible, vous n'allez pas le regretter. Ensuite, dans nos champignons adaptogènes, on va avoir l'agaricus, qui est ultra riche en nutriments, parce qu'à lui seul, il contient 18 acides aminés, donc c'est quand même pas mal, 16 vitamines et 10 minéraux différents. Et lui va participer à l'entretien de votre microbiote. Et puis, il améliore donc le système aussi cardiovasculaire. Et il aide vraiment à tout ce qui va être système digestif. On a aussi le chaga, ça c'est mon préféré, parce qu'il améliore la santé d'un point de vue général, il réduit le stress et l'anxiété, et il lutte contre le vieillissement cutané, parce qu'il est ultra efficace contre les radicaux libres. On a aussi l'hydne hérisson, donc ça je vous conseille aussi d'aller le regarder, parce qu'il est assez rigolo visuellement. C'est ce qu'on appelle un nootrope, ou nootrope, mais je crois que c'est nootrope. Donc ça vient de noos, psyché, et tropos, direction, orientation. Donc c'est-à-dire qui contient des substances possédant une action de modulation de la physiologie et de la psychologie, impliquant, accrochez-vous, une augmentation cognitive, qui vient ici, en l'occurrence, accroître la concentration et la mémoire. Donc en fait...
Comme dans Lucie, le film.
Lucie Johnson. Mais je connais pas ce film. Mais je connais
Lucie,
rien.
Si, tu sais, c'est ce film.
Avec un robot.
De l'enfer, non, de Europacorp, là, tu sais, le genre de grosse production de blockbuster.
Non.
Et le film de Luc Besson.
Oui, je vois, mais.
Voilà,
non.
Et c'est en mode à un moment, il lui file une drogue ou un truc comme ça, et elle développe toutes les parties du cerveau qui ne sont pas encore développées, etc. C'est très nul, mais. Tu dis développement des capacités cognitives, je suis là, ouais, comme Scarlett Johansson, quoi.
Très bien, et bien, soyez comme Scarlett Johansson en consommant notre fameux Eden Hérisson. Nous ne sommes pas sponsorisés par ce champignon. Le champignon ne contrôle absolument pas mon corps à présent.
C'est exactement ce que dirait quelqu'un dont le corps est contrôlé par un champignon.
On a ensuite le maïtake qui lui aide à la digestion et renforce le système immunitaire tout en régulant le taux de glycémie. Donc ça, ça peut être très intéressant pour les personnes qui souffrent de diabète. Et on va finir par le tramette versicolore. Déjà, ça, c'est un nom de, excusez-moi, de mycose. Versicolore, faut arrêter. Mais il est quand même hyper intéressant.
Ouh, c'est un peu un nom de dragon dans House of Dragon, tu vois. C'est... Ça se termine pas par axe, mais franchement, on n'est pas loin.
Je préfère...
Versicolore.
Je préfère ça. Donc, le tramède versicolore qui est anti-infectieux et c'est un super bon remède contre les rhumes et les autres maux saisonniers. Ce qui nous ramène, au lien entre les humains et les champignons. Donc, on peut dire que c'est un peu une histoire d'amour et aussi de nécessité.
Non, on les bouffe et ils nous bouffent, quoi.
C'est un peu ça. Tout le monde, enfin, en fait, on est champignon, on redeviendra champignon. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai une de mes cousines qui nous appelle... notre cousine aînée, parce qu'il y a une hiérarchie assez importante dans mon côté de famille camerounais Bassa, qui nous appelle les petits champignons. Du coup, j'ai une autre perspective. Non, je ne suis pas sûre que ce soit bien nous voir comme
mais
des mycoses.
Si. Tu sais, ça me rappelle les petits champignons qui dansent dans Fantasia.
Oh, ils sont trop mignons.
Tu vois, pour moi, c'est ça, petits champignons. Je vois les petits champignons qui font...
je ne sais pas si c'est ça. On va dire que c'est ça. Mais le truc qui est quand même hyper intéressant, c'est que on sait maintenant que les champignons, enfin, on a utilisé les champignons pour un usage médicinal depuis fort longtemps, voilà.
Aussi
puisque
appelé jadis.
Exactement. Alors, est-ce que tu connais Ozzy? Si je te dis Ozzy, pas Ozzy et les cafards.
C'est ce que j'allais dire en plus.
Non, pas lui, ça te dit rien.
J'étais là, Ozzy Osbourne, non?
Non plus. Non, et Ozzy, c'est le plus vieux corps retrouvé, donc momifié.
Oui, bien sûr.
Voilà, complètement congelé, hein, naturellement. C'est pas un champignon. Enfin, en fait, on ne sait pas. Peut-être que c'est un champignon qui l'a congelé. Je n'espère pas.
Nous sommes tous des champignons.
Nous sommes tous des champignons. Donc, il a été retrouvé à peu près... Donc, son corps date de avant 3300... Enfin, 3300 avant Jésus-Christ, quoi. Je vais y arriver. J'ai besoin de champignons. Et donc, il a été découvert sur un glacier dans les Alpes en 91. Et le truc est hyper intéressant, c'est qu'on l'a retrouvé. Et sur lui, il transportait deux champignons différents. Il avait deux champignons avec lui. Donc... Un des deux, c'était l'amadouvier, donc qui lui, c'est un gros champignon, vous pouvez aller voir, capable de garder en fait de la, comment ça s'appelle, du charbon ardent pendant plusieurs heures.
Incroyable.
Pour pouvoir, non mais c'est incroyable, pour pouvoir recréer en fait son foyer plus tard. Donc c'est l'amadouvier. Donc déjà, enfin, en fait, les champignons sont trop utiles. Et puis après, il se baladait aussi avec un autre champignon qui est le polypore du bouleau, qui lui était utilisé pour lutter contre les parasites et tout type d'autres infections. Donc il y a vraiment ce lien entre l'homme et le champignon depuis la nuit des temps. Et puis on sait aussi maintenant que dans les hiéroglyphes égyptiens, il y avait aussi des champignons. Et eux, ils étaient vraiment associés à la notion d'immortalité. Et donc, on les retrouvait à être seulement mangés par les pharaons et les nobles. Et donc, ils portaient le nom de enfants de Dieu, en fait. Voilà, donc on peut les voir aussi. Enfin, il y a différents, traces artistiques qui mettent en scène des champignons. Donc, on peut dire vraiment que les champignons fascinent clairement de par leur forme et par leur couleur, les différents endroits où on peut les trouver, et on voit bien qu'ils sont dotés de certains pouvoirs nourriciers, meurtriers, ça c'est l'apanage du champignon, sans parler des champignons qui peuvent être aussi récréatifs, on va dire, hein, et qui permettent d'accéder à ce qu'on appelle des tripes psychédéliques. Donc évidemment, attention à ce genre de pratiques, parce que ça reste que quand même des psychotropes, et il y en a certains qui sont toxique et donc on peut vraiment mourir.
Et puis on n'est pas tous sensibles de la même manière aussi.
Et on n'est pas tous sensibles de la même manière, donc en faisant très attention. Et par exemple, dans la culture française, on sait ou on suppose, bah, ça change en fait selon les sources, que les champignons étaient réservés, enfin, en tout cas les champignons dits hallucinogènes étaient principalement réservés aux personnes qui faisaient le lien entre le profane et le sacré, donc les druides, les druidesses.
Oui, moi je parle avec Dieu constamment, du coup c'est réservé pour moi, hein, c'est ma dose. Hein.
C'est un petit peu ça, et il y a certains animaux aussi qui consomment des champignons hallucinogènes comme les singes. Voilà, c'est une petite trip entre amis, quoi.
Ouais,
tranquillou à pépère.
En tout cas, je suis allée voir l'amadouvier sur Google Images et on est exactement dans ce genre de cas où je suis là fascinant et en même temps, ça me dégoûte un peu. Ouais. Je vous conseille d'aller voir, c'est impressionnant. C'est un énorme champignon qui, en effet, est décomposeur de bois et qui a longtemps servi à panser les plaies et à allumer le feu. Et on dirait une espèce de gros coquillage qui pousse directement sur l'arbre. Et le fait de dire qu'il pousse directement sur l'arbre me fait avoir un frisson de dégoût.
Ouais, je comprends, c'est spécial, quoi. Et donc, de par leur pouvoir mystique ou divin, on les associe aussi super bien aux merveilleux, mais aussi aux maléfiques. On va parler de cercles de fées, mais on va aussi parler de rondes sorcières. Donc, ce sont ces champignons qui poussent de manière circulaire. Donc, en fait, tout s'explique, puisque c'est cette histoire de mycélium qui est sous la terre et vu qu'ils font plein de trafic. En dessous, ils ne se serrent pas la main parce qu'ils n'ont pas de main, mais vous voyez, il y a tout un lien. Donc, voilà, ces champignons-là, enfin, ces cercles-là, c'était associé ou à des sabbats, ou alors c'était les fées qui venaient, qui apparaissait sur Terre, on pouvait mettre des trucs à l'intérieur des cercles de fées, et puis hop, ça disparaissait. Donc il y a plein de légendes et d'histoires associées à ça. En tout cas, quand on pense, je dirais, aux champignons... toi d'ailleurs, si je te dis champignons, qu'est-ce que tu visualises tout de suite ?
L'espèce de bolet, tu vois, qui en effet, qui est en plein milieu de la forêt, et qui est genre tout seul, quoi. Et puis sinon, bah, y a la manitou-mouche, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc la manitou-mouche, pour moi, quand je pense à champignons, souvent c'est ce que je vois. Enfin, ça dépend si je pense champignons alimentaires ou champignons tout court.
Oui, voilà,
donc la manitou-mouche, c'est donc ce fameux champignon qui a le pied blanc et le petit chapeau rouge avec les petits points blancs. Donc ça, c'est la maison des Schtroumpfs. C'est aussi les ombrelles pour les fées. C'est les sièges de Farfadet.
Et c'est un aller sans retour vers l'hôpital.
C'est aussi exactement ceci. Donc c'est vrai que les champignons ont toujours fasciné. On les retrouve aussi dans les contes à travers le folklore et tout et tout. Donc d'un point de vue symbolique, qu'est-ce que les champignons ont à nous offrir et comment on peut les utiliser dans sa pratique magique? On va avoir bien sûr la longévité, puisqu'on a vu que le champignon traversait complètement les siècles.
Increvable, comme les cafards.
C'est un peu comme ça. En fait, le gars renaît de ses cendres, c'est un peu un phénix, le phénix champignon. Qui n'existe pas. C'est aussi évidemment.
Il y a combien d'espèces, de millions d'espèces?
Oui, peut-être.
Je pense que ça peut exister, le phénix champignon.
Ce serait un champignon, tu sais, tu le prends, tu le sors de ta poche et tu le lances sur ton ennemi et il prend feu, tu vois.
Ce serait assez. On est dans un jeu vidéo. Oui, comme dans Mario.
On a aussi ce symbole de renaissance, hein, évidemment, puisque, bon, bah, comme on l'a vu, hop, il n'y en a plus, hop, il y en a. En fait, le gars n'arrête jamais. Et évidemment de prospérité et d'abondance, puisque voilà, ça pousse comme des petits champignons, ça pousse partout. Autre chose aussi assez intéressante à propos de cela, moi, mon premier souvenir de champignons, donc j'allais aux champignons avec ma tante, et c'est là où j'ai été traumatisée par les choses rampantes, puisque c'était des champignons véreux. Et mon champignon préféré, donc j'ai oublié son nom, ah oui, voilà, c'est la veste de loup, et quand on appuie dessus, ça fait pshhh. Donc ça, je trouve que ça fait partie vraiment des petits bonheurs simples qui changent la vie d'un point de vue tout à fait positif. Et puis j'ai découvert, dans la nature, j'avais jamais vu ça. Donc je vous invite à aller voir ça s'appelle le champignon la main du diable. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi affreux de toute mon existence. Je croyais que je...
Allez sur Google, allez regarder maintenant ce truc absolument atroce.
Ouais.
Ouh.
Ouais.
Ah oui, en effet.
Non, mais oui, et en fait, on a fait une petite randonnée à Caqueta. Oh non, mais c'est horrible.
Là, c'est un enfer. Ouais. Mais Stranger Things, encore et toujours.
Quoi. Ah non, mais il faut le voir, surtout, aller voir une vidéo en action. C'est un truc abominable. On dirait, comment ça s'appelle, le Démogorgon ?
Oui, le Démogorgon.
Démogorgon, ouais, et ben on dirait exactement ça. Il y a une enveloppe, il y a un truc, le truc a des tentacules. En plus, ça pue. Par contre, il est comestible et l'odeur s'en va quand on cuisine.
C'est comme Clou, quoi.
Est-ce que j'irai le manger ? Non, mais je vous en supplie, allez le regarder parce qu'il est vraiment atroce. Et donc pour finir, des petits tips pour les champignons. Donc en effet, les champignons, comme Mathilde nous l'a très bien dit tout à l'heure, il y a ce côté spongieux qu'on va retrouver chez les champignons. Donc l'idée, bah, déjà, ne pas acheter, enfin éviter d'acheter des champignons surgelés. Déjà, ça c'est une première bonne chose. Ensuite, soit à la poêle avant de rajouter quoi que ce soit, les faire. Réduire, suer à mort, qu'ils se débarrassent complètement de leur eau. Ça peut être aussi les sécher complètement au four. Évidemment, les champignons sont les amis de la persillade, ail, persil, beurre ou beurre végétal. Pour les champignons shiitake, pour le coup, c'est vrai qu'on peut vraiment les cuisiner comme de la viande, finalement, en faisant attention de se débarrasser d'eau, mais ils contiennent quand même moins d'eau, en ajoutant un peu de fumée liquide pour avoir ce côté... un peu plus renforcé de ce côté carné finalement, et un peu de soja, ça fait des merveilles. Et pour les pleurotes,
c'est une tarte du shiitake.
Ah ouais,
un vrai succès.
Bah psychologiquement ça me fait peur, mais ah non, mais je ne doute en rien de tes qualités de cuisinière
si,
de
si,
tarte.
Je vois que tu doutes, c'est pas
bah tu m'en feras, écoute.
Oui, d'accord.
Tu poseras ça sur la table de festin, il reste encore plusieurs jours. Mm-hmm. Et puis pour les pleurotes, ce que je vous conseille vivement, c'est de les faire frire entières par l'eau, enfin de faire une petite pâte à beignet très simple avec farine, eau et éventuellement un peu de levure, mais pas forcément, et ça bien frit avec une bonne petite sauce, c'est un régal. Voilà, j'ai fini de vous parler de ces... Ah non, j'ai quelque chose de très important à vous dire aussi avec par rapport aux champignons, c'est que c'est un peu dégueu. Mon frère, quand il vit en Angleterre, c'était tellement humide que dans sa salle de bain, il y avait un champignon qui poussait entre les... Mais un vrai champignon avec un chapeau et tout.
Ah, la nature trouve toujours un chemin.
Oui, qui poussait entre deux... carrelage, enfin deux morceaux de carrelage, et en fait, en faisant mes recherches, j'ai regardé aussi que ça, dans les croyances, si t'as un champignon qui pousse chez toi, c'est assez bon signe en termes... Enfin, alors, ça dépend.
Ce que je veux dire, c'est le lobby des propriétaires qui sont là. Mais non, regardez, c'est bon signe. C'est très bien, il ne faut pas tout casser pour tout refaire.
Non, mais ça doit être ça, mais c'est quand même assez flippant. Ce serait qu'il y aurait une rentrée d'argent qui arriverait bientôt et que...
Bah, pour pouvoir déménager.
Exactement, et que si le champignon meurt... Bon, bah, en tout cas, ce serait propice pour lancer... la chose qu'on a envie de faire, et ça nous rapportait de l'argent tant que le champignon est là et en vie, et dès qu'il commence à se ramollir, de toute façon vous savez qu'il reviendra puisque c'est le but du champignon.
Je pense vraiment que c'est une fake news menée par les syndics de copropriétaires pour faire taire les locataires qui sont là. J'ai des champignons dans ma salle de bain, merci de faire des travaux. Et moi je voulais juste ajouter que au niveau astrologique, le champignon c'est complètement l'énergie scorpion.
Ah oui.
Plutonienne, du coup ça pousse dans des endroits sombres, humides, marécageux, qui nous paraissent un peu dégueux. Très clairement, on l'a vu d'ailleurs là pendant l'épisode, on n'est pas du tout phobique des champignons non plus, mais on n'est quand même pas les seuls à avoir cette espèce de répulsion, attirance, notamment, enfin comme je disais, enfin j'ai rien contre les champignons, mais je vois une photo où je vois le champignon qui pousse directement sur l'arbre. Évidemment, ça nous ramène à toutes les énergies scorpions qui nous parlent de la mort, qui nous parlent de l'arrêt de notre corps, de la décomposition à venir, de notre enveloppe charnelle, etc. Donc pareil pour vos rituels, ça peut être aussi des choses, par exemple des rituels pour aller mieux dans vos deuils aussi, par exemple, ou voilà, si vous voulez faire des choses pour vous réconcilier avec l'idée de la mort, etc. Personnellement, j'y ajouterai des champignons.
Très bonne idée et très bon mot de la fin. Eh bien, nous allons prendre congé de vous maintenant, et n'oubliez pas surtout de nous envoyer des photos de vos banquets, des champignons. Allez voir tous les champignons qui ont été cités et dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous, Héloïse Méard
et Mathilde Fachan.
Sans publicité ni soutien commercial. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast ou à envoyer un commentaire gentil. Vous pouvez aussi acheter notre livre, également appelé Kitchen Witch, c'est facile, publié aux éditions Webedia. C'est un super grimoire plein de délicieuses recettes et d'informations sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison. Vous pouvez aussi venir manger chez nous au Café Contresort. Toutes les informations sur l'adresse et les horaires sont disponibles via l'ami Google. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast Kitchen Witch. Cuisinez bien, mangez bien, enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos assiettes et à la prochaine!
À bientôt!